Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien voilà les amis, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct, il est 10h30 exactement. Nous sommes sur Territoria et sur Radio Immo. On est ravis de vous accueillir pour cette édition 2024 du salon immobilier bas carbone. On fait le tour un petit peu de la planète immobilière avec ceux qui fabriquent la ville. J'ai le plaisir d'accueillir les équipes de CBRE qui sont dignement représentées. Bonjour Cédric Nicard.
Bonjour.
Comment ça va ?
Impeccable.
Alors vous êtes directeur du développement durable, service ESG et développement durable au sein du groupe CBRE. On est d'accord ?
Exactement.
Vous nous parlerez un petit peu de votre métier. Et Mathieu Bonin également est avec vous.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron en fait, de Cédric apparemment.
On travaille ensemble. On travaille ensemble.
Vous dirigez donc le service ESG au sein de CBRE. Quelques mots sur votre fonction. En quoi ça consiste exactement ? Est-ce que vous travaillez également sur toutes les classes d'actifs ?
On travaille avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, l'ensemble des classes d'actifs. On a un rôle très transverse au sein de CBRE pour alimenter, adresser les clients, les partenaires immobiliers, investisseurs, utilisateurs, promoteurs. Donc oui, on est au service des métiers CBRE et évidemment à l'échelle du marché.
En quoi consiste votre tâche au quotidien, Cédric ?
Au quotidien, le travail, ça va être effectivement de convaincre et d'embarquer toutes ces parties prenantes extrêmement multiples dans une trajectoire de durabilité. Donc concrètement, ça veut dire réussir à mettre autour de la table un propriétaire, un utilisateur, l'ensemble des chaînes d'exploitation des bâtiments, un property manager, etc. Trouver des objectifs communs et de faire en sorte de se fixer un objectif, notamment de décarbonation le plus durable possible dans tous les sens du terme.
Est-ce que ça passe avec les clients ?
Ça passe évidemment.
Est-ce qu'ils ont conscience que l'ensemble de leurs actifs va subir une mutation profonde ?
Alors oui, ils en ont conscience. Le point qui est important à intégrer dans les échanges avec eux, c'est la temporalité. En fait, les enjeux sont effectivement à très court terme, notamment pour faire face à des risques climatiques physiques qui vont impacter leur bâtiment. Mais la trajectoire de décarbonation d'un bâtiment comme la gestion d'un bâtiment, sa transformation, son exploitation, se pense à long terme. Donc, le gros enjeu avec l'ensemble de nos clients et des parties prenantes, c'est de réussir à faire corréler les deux, de pouvoir faire des actions court terme avec des gains immédiats, pour aussi les convaincre d'investir parfois plus, de mouiller un peu plus la chemise pour transformer plus durablement.
Alors justement, Mathieu, on voit bien que ça a un impact sur les valeurs, hein, pour être très clair là-dessus. On ne va pas penser une seconde que l'ensemble des détenteurs, des foncières, des propriétaires ont à cœur la transformation de l'humanité. Mais c'est bien, il y a les deux. Il y a le côté économique et il y a le côté impact. Comment vous vous y prenez dans la méthode ? Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que c'est assez d'ailleurs déconcertant. Certains opérateurs, notamment de gros opérateurs, n'ont pas forcément le niveau de compétence ou le niveau de technicité. Je vais même aller plus loin. Ils ont même du mal à appréhender l'écosystème. Ça leur paraît nébuleux. Est-ce que vous partagez le même constat ? Et comment vous allez mettre en place, comment vous mettez en place des méthodes, des process pour les accompagner, comme vous le disiez très justement, Cédric, à long terme ?
Plusieurs questions, mais vous touchez le cœur du sujet. Aujourd'hui, nous, l'enjeu, c'est de pouvoir réconcilier économie et écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient nous voir non plus pour des stratégies ESG ou développement durable, mais pour des stratégies d'entreprise tout court. Aujourd'hui, on a besoin d'intégrer, c'est pas quelque chose en plus, c'est pas une cerise sur le gâteau, l'ESG, ça fait partie évidemment éminemment du modèle économique. Donc nous, l'objectif, c'est dès le départ, en amont, de travailler avec les donneurs d'ordre pour travailler leur modèle économique. Ça, c'est une première partie. Pour parler de technicité et d'expertise, forcément, les métiers sont nouveaux, très techniques, très réglementaires. Les réglementations ne sont pas sèches, elles bougent. Donc on a besoin de pouvoir accompagner à travers des actions de formation, de sensibilisation, pouvoir faire monter en compétence, évidemment, nous, en tant que conseil, mais in fine, nos clients sur toute la chaîne de valeur. Donc l'expertise, la connaissance, pour vraiment irriguer un modèle économique qui ne soit plus un modèle économique avec de l'ESG, mais vraiment l'ESG qui irrigue l'ensemble du modèle économique.
Techniquement, ça se passe comment ? Est-ce que ça passe par la mise en place d'une gestion technique des bâtiments ? Est-ce que comment vous appréhendez les outils de pilotage ? Comment vous travaillez les CAPEX qui vous permettent de piloter la décarbonation ? Puisqu'on est quand même sur une vaste entreprise de décarbonation des bâtiments. pour redonner de la valeur aux actifs. Il faut être très clair là-dessus, puisque les actifs ont été quand même considérablement plombés. On peut le comprendre, hein, les usages, l'économie, la permacrise, une crise en chasse une autre, une fiscalité qui n'a pas été extrêmement positive à l'égard des acteurs de l'immobilier, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, merci Manu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour justement essayer d'accompagner, de redonner finalement envie à vos opérateurs, à vos clients, d'entreprendre ce chantier? Je vais même aller plus loin. Ça va faire peut-être disparaître des métiers et ça en fera réapparaître d'autres. Est-ce que vous partagez ce constat également? Et comment, techniquement, vous mettez en place tous ces points de contrôle, ces points d'indicateurs pour vos clients, très concrètement?
Très concrètement, vous exposez évidemment des sujets en termes de suivi de la valeur ESG, pas seulement un sujet de stratégie RSE.
Cédric, Mathieu, c'est une valeur.
On parle d'une valeur.
Oui, très clair.
Aujourd'hui, c'est une valeur. Aujourd'hui, on parle, nous, du très matériel jusqu'à l'immatériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de travaux. Ensuite, une fois qu'on a fait des bons travaux de décarbonation, on va les certifier. Ça, c'est l'étape certification. Et ensuite, on va valoriser au niveau des portefeuilles immobiliers. Donc, in fine, on parle évidemment de valeur d'actifs et surtout d'éviter le coût de l'inaction.
Parce que excusez-moi, je vous coupe, que je comprenne bien. Hein. La valeur de l'actif, est-ce que c'est une conservation de la valeur d'actif ou c'est un accroissement de la valeur? C'est pas la même chose.
C'est les deux. C'est les deux. Ça va dépendre.
Donc, vous conservez la valeur, exactement, vous maintenez le niveau de valeur.
Ça, c'est le point minimal.
Et vous trouvez des relais de croissance qui permettent d'optimiser la valeur en elle-même.
Exactement. Sur les enjeux très prégnants de l'énergie, du carbone, ça, on les connaît, il y a les sujets de réglementation qui poussent. Derrière, il y a d'autres sujets qu'il faut anticiper. L'économie circulaire, la biodiversité, la résilience au changement climatique. Ça, c'est des sujets qui sont aujourd'hui satellites, pas parce qu'ils sont moins importants, mais parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout adresser. Il y a une feuille de route, on ne peut pas être exemplaire dès la première année. On a adressé l'énergie, le carbone. Il y aura d'autres sujets qui vont rentrer dans la danse et qui feront une traduction sur la valorisation des actifs, enfin des portefeuilles et des actifs in fine.
Vous partagez le même constat, Cédric ?
Exactement, et ce qui est important, c'est que, et vous l'évoquiez, la valeur, elle est multifactorielle. Il y a la valeur, effectivement, faciale du bâtiment, mais on peut l'étendre avec, effectivement, des taux de rotation.
Justement, si on la venez, on la décompose. On décompose les éléments plus multifactoriels, lesquels? Alors, en gros, voilà, les premiers les plus importants.
En gros, les plus importants, ils vont être liés, déjà, au premier aspect, ils vont être liés aux qualités intrinsèques du bâtiment. Donc, sa qualité physique.
Qualité architecturale, qualité d'entretien,
exactement.
Fluide, etc.
etc. Donc, à l'inverse, son opposé, l'obsolescence du bâtiment de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier aspect qui est hyper important, qui est indirectement aussi corrélé avec sa localisation, même si d'un point de vue ESG, une fois que le bâtiment est construit, on peut aller travailler les sujets de mobilité qui vont reconnecter un bâtiment qui pourrait ne plus l'être. Donc on a un deuxième aspect. Ensuite, on va avoir un sujet qui est moins chiffrable directement en euros, mais qui est ultra important pour les gestionnaires d'actifs, ça va être sa liquidité. Liquidité à la vente, liquidité à la location, qui est extrêmement difficile à mesurer, mais extrêmement prégnant dans les sujets ESG. On parlait des certifications que Mathieu évoquait tout à l'heure, un bâtiment certifié, aujourd'hui on le voit, il se loue plus vite, il se vend plus vite. Il ne va pas toujours se vendre plus cher ou se louer plus cher.
Certifié, ça veut dire que c'est l'acquisition pour l'acteur, l'utilisateur ou l'investisseur de la certitude de la qualité de son investissement. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'investissement à impact?
Alors, pas forcément. La certification va être un cadre de moyens. L'objectif d'impact, c'est un objectif de résultat. Donc, on a objectif de moyens versus objectif de résultat.
Bien sûr.
L'impact va nécessiter de se poser des questions en amont de à quel problème sociétal on veut répondre. Ça peut être un problème social, d'accès au logement, par exemple.
Exemple, voilà, accès au logement.
Ça peut être un sujet environnemental, désartificialiser une friche.
Ça peut être de la densification.
Absolument.
De la surélévation.
Tout à fait, exactement. D'accord. C'est des bonnes solutions pour aller réimpacter positivement un quartier ou un territoire dans son ensemble.
En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Parce que, a priori, on ne veut plus vraiment s'étaler de manière urbaine. Alors, bien évidemment, dans le ZAN, les gens retiennent le zéro, mais c'est pas zéro. Hein. On continue à construire avec le ZAN, mais moins. Avec, effectivement, une décarbonation accompagnée d'une débitumisation où on réinvite la nature, justement. Alors, je voudrais qu'on parle d'investissement également, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des moteurs, des phares de la profession en matière de conseil en investissement. Il faut être très clair. Est-ce que ça impacte dans les choix d'investissement? On l'a vu ces dernières années, c'est surtout ces deux dernières années. Bon, je ne vais pas dire un désinvestissement, mais on voit que les deals sont quand même beaucoup moins nombreux, avec effectivement une remise en cause d'un certain nombre d'éléments de valeur, en sachant qu'il y a des quartiers d'affaires qui souffrent terriblement. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur la défense, mais la défense est un cas archétypique de la vacance locative. Est-ce que vos actions peuvent être aussi déterminantes dans la reconfiguration de ces actifs pour aller justement, ce que vous disiez tout à l'heure, vers la conservation de la valeur et l'accompagnement ? Mathieu ?
Ce qui est,
on est aussi, un vrai sujet. Hein.
C'est un vrai sujet. On est aussi PICA, donc moi, on est nature optimiste et c'est enthousiasmant de voir que, en dépit du marché qui est un petit peu complexe, un petit peu morose sur les sujets d'investissement, et c'est un euphémisme, aujourd'hui, la valeur ESG, les actions ESG sont au beau fixe. Pourquoi ? On a une aide, une poussée réglementaire très forte, forcément ça nous aide, mais on a surtout un sujet d'anticipation des valeurs. On revient à ce sujet de valorisation des actifs ou des portefeuilles. Les acteurs financiers, les grands investisseurs, les grands institutionnels, ils savent que cette thématique ESG n'est plus encore une fois quelque chose en plus, qui est la valeur intrinsèque de leur immobilier et de leur portefeuille. Donc c'est vrai qu'en dépit d'un contexte, alors forcément quand on aura plus d'investissements, on sera tous plus heureux, on aura plus de missions, plus d'actions. En revanche, on arrive à garder cette force de persuasion et qui est encore plus forte maintenant parce que forcément, dans un contexte économique pur et dur, un peu plus complexe, on voit que cette valeur est un cap également pour les acteurs de la profession. Donc ça, c'est très enthousiasmant. Ensuite, je reviens également sur la partie de la mesure. Forcément, mesurer, c'est clé dans nos actions. Il y a la conception, la construction et l'exploitation. Forcément, l'exploitation, l'ESG se vit aussi à travers l'exploitation. Donc la gestion de données, on parlait de GTB notamment, on peut parler également des ENR sur le sujet de photovoltaïque, de tirer également le fil sur un temps long en termes d'investissement, des sujets d'autoconsommation individuelle, d'autoconsommation collective. Donc c'est très complexe, il y a beaucoup de ramifications, il y a besoin à un moment donné de pouvoir traduire ça en data énergie et évidemment carbone. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on porte avec au CIPCA aujourd'hui notamment.
Alors, il n'a échappé à personne, bien évidemment, qu'on est dans un environnement de très large de décarbonation complètement acquis, hein, on est d'accord là-dessus. On voit bien maintenant d'ailleurs que la conversion des grands portefeuilles actions-obligations se sont verdis de façon considérable. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de levée de fonds et il n'y a plus de financement s'il n'y a pas de l'investissement à impact. On peut considérer d'ailleurs que ce sont des ratios extra-financiers. Est-ce que vous partagez l'idée que ces ratios extra-financiers, green value, la taxonomie définie par les critères européens notamment, vont de toute façon maintenant s'installer durablement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de toute façon, il n'y a plus de débat. Tous les investissements se font comme ça. Donc votre métier est plus que jamais central dans, j'allais dire, les pivots de décision, l'aide à la décision. Parce que ce que vous faites, c'est que vous aidez vos clients à vous décider finalement. On va commencer par vous, Cédric.
Exactement. Alors effectivement, les crises ou pas crises, ces facteurs-là se sont installés, et notamment du côté du prisme des financeurs, la taxonomie que vous citiez très justement, et un prisme de lecture extrêmement facile et extrêmement impactant, justement pour aller conditionner des
facile
financements.
Pour vous. Parce que je peux vous dire que quand on...
L'épaisseur des 600 pages...
Non, mais franchement, il faut le lire avec un Valium ou un... ou un tranquillisant. Non, mais vous êtes un ingénieur. Non, mais je suis client. À la limite, le sujet, c'est pas que je mémorise les 600 pages de la taxonomie. C'est que vous me donniez les clés et je vous rémunère pour ça. Je sollicite votre jus de cerveau pour ça, pour justement faciliter la tâche. On est d'accord là-dessus?
Exactement. Et la taxonomie, pour être digeste, doit être transformée en une grille de lecture la plus simple possible et la plus concrète.
Absolument.
Parce que le financeur n'est pas forcément un expert lui-même de l'immobilier, ni encore moins de toutes les classes d'actifs et des différentes localisations territoriales. Donc ce point de traduction, finalement, c'est notre responsabilité en tant qu'acteur de la transaction et de la transition immobilière, finalement, de faire cette courroie entre les deux.
Et ce point de départ qu'évoque Cédric, évidemment, de traduction pour que l'ensemble des parties prenantes très différentes, techniques, économiques, financières, se comprennent. Ça, c'est évidemment la première étape. Et qui est derrière vraiment cette feuille de route qui permet après de déclencher des actions très concrètes, décarbonation du bâtiment, économie circulaire, et ensuite financiarisation.
Qui permet aux properties de piloter, aux assets de choisir leurs investissements, d'avoir suffisamment d'analyse dans leur process d'engagement, justement, qui leur permettent de sécuriser leurs investissements. Dernière question, puisqu'il est l'heure de conclure. Comment vous le sentez, ce salon, comme ça, spontanément? Alors, c'est blindé de monde, ça marche très bien, on voit que tout l'écosystème est là. Est-ce que ça vous rassure, vous, de votre côté, en vous disant, voilà, on a quand même un marché qui commence à se massifier et clairement engagé?
Ben, vous l'avez dit, tout l'écosystème est là et c'est un peu ça l'enjeu. Une transition de cette ampleur pour faire face aux réglementations et à la transition qu'il faut engager, elle ne marchera que si tout l'écosystème est là. Et on l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui, tous les métiers sont représentés, de la construction à l'exploitation. Et c'est extrêmement enthousiasmant et positif de voir que tout le monde rejoint le bateau.
Mathieu ?
Je suis très heureux et très enthousiaste de voir que nos sujets ont fait...
Mais vous êtes politisé par nature, ça se voit tout de suite.
Non, mais je veux dire, les sujets d'économie circulaire, développement durable, si on se remonte 5-10 ans en arrière, c'est évidemment pas la même histoire.
Ah ouais.
Et aujourd'hui, de voir les acteurs économiques, politiques, décisionnaires, ça fait évidemment chaud au cœur, parce qu'aujourd'hui, on est en fronde sur ces sujets-là. C'est au cœur de l'activité de nos clients. Et on voit que voilà, le sens de l'histoire est là et on accélère avec... avec lui.
Merci messieurs.
Merci à
vous. Un grand merci à Cédric Nicard, directeur du développement durable service ESG pour CBRE. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à Mathieu Bonin également. Vous êtes le patron du département ESG et Sustainability. Voilà. Les anglicismes, en France, j'essaye de traduire. Comment on peut traduire sustainability aujourd'hui ?
Modèle économique durable.
Voilà. Bah, pour vos clients, ça c'est essentiel, surtout quand on s'appelle CBRE. Voilà un petit clin d'œil à notre ami Fabrice Alouche, président de CBRE France. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Voilà, il est 10h46. À suivre, je vais animer une conférence dans un petit quart d'heure sur justement les nouveaux modèles et comment aboutir à la transformation et quelles sont les bonnes pratiques finalement pour y arriver. Et ensuite, on va prendre le relais avec notre ami Grégoire au micro jusqu'à midi. Voilà, merci à vous et on reste connectés sur IMO et sur Territoria. Tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio IMO et Radio Territoria.